Parlons santé publique parce que je vous en ai parlé en début d'émission. On a eu d'excellentes nouvelles hier. C'était la première fois dans la région de Québec qu'on avait zéro, pas juste des décès, ça arrive souvent qu'on a zéro décès, mais depuis 3-4 mois, première journée qu'il n'y avait aucun nouveau cas. Zéro. Aucun nouveau cas, aucun nouveau mort. Aujourd'hui, le nombre de cas, c'est quoi? Je pense que c'est 4 dans la région de Québec, puis 0 dans Chaudière-Appalaches. Et pour en discuter, on va aller joindre à l'instant celui qui est adjoint médical au directeur de la santé publique au CIUS de la Capitale-Nationale, le docteur Jacques Girard. Bonjour!
Oui, bonjour, M. Duhem.
Donc, docteur Girard, hier, on a eu une excellente nouvelle. Il n'y avait plus, non seulement pas de décès, ce qui est déjà une très bonne nouvelle, mais aucun nouveau cas. Ça veut dire que tous les cas qu'on avait, on avait de moins en moins parce qu'il y en avait qui guérissaient là-dedans. Ça arrive, là, après quelques mois. C'était une bonne nouvelle depuis, la meilleure nouvelle depuis quelques mois. Là, les sceptiques disent que c'est parce que les fax ne fonctionnaient pas au ministère de la Santé hier, mais c'est pas ça la vraie raison, là. C'est parce qu'il n'y avait vraiment pas de nouveaux cas, là.
Oui, écoutez, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on se préoccupe effectivement de la façon avec laquelle on rapporte effectivement ce qui se passe. Hein. Écoutez, c'est une vraie bonne nouvelle, effectivement. On s'y attendait, M. Duhem, hein, parce que si vous regardez la courbe, vous avez suivi ça tout comme nous. On était vraiment dans une courbe descendante et là, on est vraiment là, dans les derniers, dans les derniers jours, dans la dernière semaine, écoutez, une diminution de presque 20% là, de cas. On en a enregistré un certain nombre dans les dernières 24 heures, mais je vous dirais que quand on regarde ça sur finalement sur une période de plusieurs jours, souvent hebdomadaire. D'ailleurs, le CDC à Atlanta, aux États-Unis, donne toujours ses statistiques sur une base hebdomadaire. Nous, dans le fond, on les comptabilise aussi de cette façon-là. Puis là, on voit vraiment les grandes tendances. Et effectivement, nous avons vraiment une tendance à la baisse. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que finalement, les mesures de confinement et de déconfinement ont été très efficaces finalement. Et que la population a bien répondu aussi finalement aux mesures qu'on leur avait édictées, si vous voulez, qu'on les avait encouragées à prendre. Donc on est particulièrement heureux de ça.
Parce qu'il faut le dire, là, depuis qu'on a annoncé le déconfinement progressif, plus on déconfine, plus le nombre de cas diminue. Donc ceux qui craignaient que le déconfinement conduise là à une deuxième vague instantanée puis qu'il y a une explosion de cas dès qu'on sortirait de chez nous, en fait c'est un peu le contraire. Ces produits, là.
Exactement. Mais vous vous rappelez, quand on parlait du déconfinement, on disait quoi? On disait il faut déconfiner d'une façon graduelle et progressive, sécuritaire également. Donc, le graduel et le progressif, là, ça a été, je pense, la clé qui nous a permis finalement de passer à travers cette transition-là entre le confinement et le déconfinement qui nous a donné les résultats que nous observons aujourd'hui. Donc, on est particulièrement heureux. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, notamment, justement, le déconfinement a été un peu plus rapide que nous. Si vous regardez les mesures de déconfinement, quand on regarde les différentes phases, 6 phases, on peut considérer que le gouvernement du Québec a quand même été un très bon élève de l'OMS.
On a encore per capita plus de morts qu'aux États-Unis. Il ne faut pas se péter bretelles trop vite. Le bilan du Québec est encore moins reluisant que celui américain au total, là, présent au moment où on se parle.
Vous avez raison, en fait. Je vous dirais que ça, ça a été vraiment le talon d'Achille que nous avons connu. N'eût été de cela, évidemment, ça aurait été vraiment relativement intéressant comme bilan. Vous avez raison, on a vraiment échappé cela, dû à plusieurs facteurs, bien évident, mais de façon générale, je vous dirais que on a appris beaucoup aussi dans les derniers mois, je dirais, parce que, évidemment, tout ce qu'on a mis en place, on s'est rendu compte de ce qui a bien fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné. Ça nous a permis de caractériser aussi les milieux. Je vous dirais que par rapport à ce qui pourrait venir dans les prochains mois, écoutez, on sera un peu mieux armé pour faire face à la situation.
Il faut le dire, là, la région de Québec, là, on parle du bilan au Québec, mais la région de Québec, là, on s'en est très bien tiré par rapport à Montréal. Là. C'est clair que même per capita, là, je comprends que c'est une ville plus petite, mais per capita, on s'en est très, très bien tiré par rapport à nos voisins montréalais. Là.
Tout à fait. Quand vous regardez le nombre d'établissements, donc de centres d'hébergement, où on a enregistré évidemment l'ensemble des décès. Il faut quand même se dire que c'est là que ça a fait mal beaucoup. Si on compare par exemple une région comme Laval, pour dire quelque chose, à Laval, presque tous les centres d'hébergement ont été atteints. Alors, nous, évidemment, c'est une fraction, là, c'est quand même 9 centres d'hébergement, en fait, sur... on parle des CHSLD, là.
Oui, oui.
Sur les 20 CHSLD, c'est quand même...
C'est 9 sur 20, ça faisait 45%, c'est ça?
Non, en fait, c'est que... faudrait revoir les chiffres que j'ai devant les yeux, là. En fait, il y a 29 CHSLD dans notre région.
C'est le tiers, un petit peu moins que le tiers, là.
Ouais. Mais disons que c'est un petit peu moins que ça, je dirais. Parce que là, on comptabilise aussi les ressources pour personnes âgées, les ressources d'hébergement pour personnes âgées. Donc, on fait le bilan total, si vous voulez. Et puis, de façon générale, écoutez, on a été relativement... je vous dis pas que... Écoutez, c'est toujours une situation qu'on déplore énormément. Comme on dit, on l'a un peu échappé par rapport à certains milieux. Mais je peux vous dire une chose, c'est que, en tout cas, on n'a pas lésiné sur les moyens à mettre en place. La mobilisation qu'on a dû mettre en place, parce qu'il a fallu remplacer, évidemment, tous ces travailleurs de la santé qui avaient été infectés, notamment. Une mobilisation vraiment qu'on n'a jamais connue dans notre région, je pense. Et effectivement, toutes les mesures qu'on appelle PCI, là, les préventions et contrôles des infections, évidemment, ça a été un élément majeur pour éviter des situations qui auraient pu être probablement encore pires que celles qu'on a connues.
Docteur Girard, parlez-moi de la deuxième vague, parce que tout le monde parle, dit qu'il va probablement avoir une deuxième vague. Le docteur Arruda a l'air convaincu qu'il y en a une deuxième. Sur quoi on se base pour dire qu'il va y avoir une deuxième vague? Puis est-ce qu'elle va être similaire à celle qu'on a connue? Puis quand est-ce qu'elle va venir nous frapper?
Écoutez, c'est certain qu'on fonctionne toujours avec des hypothèses. Hein. Vous comprendrez que on est toujours un peu prudent. Mais une chose qui est certaine, écoutez, M. Duhaime, si on était une île déserte, le Québec, là, probablement qu'avec la gestion que nous avons faite, puis la courbe qui vient finalement de nous orienter vers un scénario favorable, c'est vraiment ce scénario-là qu'on visait, probablement que la COVID-19 s'éteindrait d'elle-même dans les prochains mois, vous voyez. La difficulté qu'on a, on vit dans un monde où il va y avoir des déplacements entre populations. On va ouvrir les frontières à un moment donné, avec les Américains notamment. La frontière est toujours fermée jusqu'au 21 juillet. Alors, on ne sait pas encore si le gouvernement fédéral va autoriser la réouverture. Tout ce brassage de population-là fait qu'on n'est pas une île déserte. Donc, il va y avoir un phénomène, si vous voulez, d'interaction. C'est sûr que dans la mesure où les mesures de distanciation, les barrières qu'on met, comme que vous connaissez, dont vous avez suivi vraiment le développement, ben c'est sûr que tout ça va quand même limiter. Mais il reste que quand même, plus il y a de personnes qui se côtoient, qui se visitent, et c'est l'été aussi, c'est la période des grandes vacances. Et quand on va se retrouver à l'automne, qu'est-ce qui se passe? À l'automne, il fait un petit peu moins chaud, donc les gens vont avoir tendance à être davantage à l'intérieur. Et on sait que les agents pathogènes, qu'on appelle les virus ou les bactéries, se transmettent beaucoup plus en maladies infectieuses dans des environnements intérieurs, si vous voulez. Alors, nous, on pense que ce brassage de population-là, l'arrivée de l'automne, et on l'observe aussi dans certaines régions australes, l'hémisphère austral, où là, ils sont en hiver. Effectivement, ils l'ont un peu dur du côté de l'Amérique du Sud, notamment. Alors, c'est sûr que nous, on s'attend peut-être qu'à l'automne, il pourrait y avoir un soubresaut. Nous, ce qu'on pense, c'est on n'aura peut-être pas une seconde vague de l'ampleur qu'on a connue. Peut-être que ce seront peut-être des soubresauts, des petites vagues. Au moment où on se parle, c'est un peu le scénario qu'on trouve le plus plausible. Parce que le virus va continuer à circuler. C'est ça un peu la situation avec laquelle on va composer encore pour, je dirais, la prochaine année ou jusqu'à ce qu'on trouve effectivement un vaccin et qu'on puisse le distribuer à l'ensemble de la population. Donc, l'hypothèse d'une seconde vague, c'est peut-être aussi plusieurs petites vagues aussi qui pourraient peut-être nous attaquer.
Est-ce qu'il y a... Parce que ce qu'on se demande, au début, on se disait, OK, il faut aplanir la courbe. là, est-ce qu'on est encore, c'est-tu encore vrai ce qu'on se faisait dire au début, là, qu'il faut aplanir la courbe? Là, elle est plate, là, mais est-ce qu'il faut faire la même chose cet automne, c'est-à-dire répartir ça sur une plus longue période? Puis est-ce que l'immunité collective, là, qui est un concept qu'on nous avait bien présenté au départ, est-ce que cette thèse-là, elle a été mise aux poubelles ou si elle est encore en vigueur puis elle est encore pertinente?
Oui, M. Duhem, vous posez de tellement bonnes questions. Écoutez, oui, la courbe, on l'a aplatie, et puis même, je vous dirais même que la courbe, elle est comme finalement dans sa phase tellement descendante que finalement, il y a pratiquement pas de courbe au moment où on se parle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr que pourquoi on voulait aplatir la courbe, un des objectifs principaux, je dirais le principal, c'était de nous assurer de répondre aux complications de personnes qui ont la COVID-19. 80% des personnes qui font la COVID-19 ont très peu de symptômes, certains même en ont même pas du tout. Cette proportion-là est encore inconnue. Et là, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les 20% qui vont faire des complications et qui vont devoir se rendre à l'hôpital. Et de ce 20%-là, ben, il y a un certain nombre qui va devoir d'ailleurs être transféré aux soins intensifs. Alors, quand on dit aplatir la courbe, c'est pour nous permettre finalement de composer avec ces complications, faire en sorte que notre système de soins ne soit pas débordé, ne soit pas saturé. C'est vraiment la raison pour laquelle on veut toujours aplatir la courbe. Maintenant, je sais que vous allez me poser la question suivante. Oui, mais est-ce qu'on va être obligé de se reconfiner comme on l'était? La réponse est non. On va probablement, si on a besoin, si on voit que le nombre de cas augmente à un rythme inquiétant, ben, peut-être qu'à ce moment-là, on va y aller de façon ciblée. La réalité est très différente d'une région à l'autre. On l'a vu avec cette courbe qu'on a connue au Québec là, depuis oui. le mois de mars. Donc, on va probablement ajuster le tir. Et l'autre question que vous me posiez,
c'était l'immunité collective. Là. Est-ce que l'immunité collective est encore pertinente? Là?
Alors, écoutez, quand on regarde cela, bon, d'abord, avant qu'on atteigne l'immunité collective, là, je vous assure que c'est pas demain la veille qu'on va réussir à avoir des taux qui vont nous permettre de nous protéger. Avec le taux de transmission de ce virus-là, on évaluait au départ finalement que chaque cas allait générer finalement 3 autres cas. On pense que probablement, en tout cas, ça va se. On travaille beaucoup là-dessus au niveau international.
Mesurer.
On pense que probablement que ce taux de transmission-là est beaucoup plus important. Alors déjà, avec un cas qui génère 3 cas, il faudrait avoir à peu près 70% de la population qui serait immunisée pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que l'infection finalement se résorbe ouais. d'elle-même. Mais là, si le taux de transmission est plus élevé que 3, ce qui semble vouloir se confirmer malheureusement, ben là, il va falloir atteindre des taux qui sont de l'ordre peut-être de 80% et davantage.
Il va falloir qu'on l'ait tous attrapé, autrement dit, là, pour qu'on l'ait plus. Là.
Ça. Puis avant qu'on atteigne ça, évidemment, écoutez, dans les États où ça a vraiment, vraiment frappé fort, comme l'État de New York, écoutez, les taux serait peut-être autour de 10%, puis encore, ça prend avec des bémols. Donc, avant qu'on atteigne vraiment ce que j'appellerais le standard pour protéger l'ensemble de la population, on n'est pas là.
Puis mais il y a quand même des bonnes nouvelles, là, parce que quand vous dites que les taux, c'est vrai que le taux se propage peut-être plus vite, mais le taux de mortalité, par exemple, de la maladie est beaucoup plus faible que ce qu'on nous disait au départ. Et il y a été une époque, on nous disait qu'en Italie, là, quand ça a parti, là, c'était peut-être 6-7%, après ça, c'était 3-4, après ça, 2, après ça, 1. Là, maintenant, on parle de quoi? 0,3% à peu près? Là.
Je vous dirais que c'est plus autour de 1. Parce que je consultais beaucoup d'études qui ont été faites justement en Europe, en Italie particulièrement, mais pas uniquement en Italie, et également aux États-Unis avec des études justement assez sérieuses. Là. Et le taux est autour de 1%. Il le dépasse légèrement. On parle de 1,2%. Mais vous savez, c'est une bonne nouvelle, oui, mais quand même 1% de notre population... Pensez-y, si on n'avait pas...
Mais chez les jeunes, c'est quand même moins que la grippe. Là. C'était ça qu'on avait entendu aussi. Là.
Mais les jeunes, vous voyez, les jeunes ont cette capacité-là aussi de transmettre. Et en fait, c'est ça un petit peu qui nous préoccupe. Les plus de 16 ans, alors c'est toute la question. Ces jeunes-là ont des parents, ils ont des oncles, ils ont des tantes qui sont plus âgés qu'eux. Et ces personnes-là pourraient effectivement... pourraient effectivement être des victimes, si vous voulez, secondaires.
Avez-vous calculé la moyenne d'âge des gens qui meurent, comme par exemple ici à Québec ou au Québec? Est-ce qu'on a des chiffres? Parce que j'ai vu qu'ailleurs, ils sortent des chiffres, 84, 85 ans. Est-ce qu'on est dans les mêmes eaux au Québec où la moyenne d'âge est plus basse ou plus élevée?
Écoutez, la moyenne d'âge est plutôt élevée. Quand on regarde les décès, on les enregistre essentiellement chez les plus de 70 ans, hormis peut-être deux, trois cas, si vous voulez, deux, trois situations où les personnes sont décédées parce qu'ils avaient possiblement certaines maladies chroniques ou certaines conditions médicales qui les amenaient à être un peu plus vulnérables. Ce virus-là vraiment, vraiment s'attaque aux personnes âgées et aux personnes qui ont essentiellement des maladies chroniques. On parle aussi de l'obésité, donc les personnes qui auraient une obésité morbide, par exemple, seraient particulièrement à risque, effectivement, de complications et éventuellement de décès.
Tantôt, vous avez parlé là, d'aplatir la courbe, notamment, puis pour s'assurer que les soins intensifs puis les hospitalisations, le système de santé soit capable de répondre à la demande, parce qu'il y a un 20% là, qui va en nécessiter des soins. On a remarqué dans la région de Québec, au début, je pense qu'on avait mis 1 700 lits de côté pour faire face à la crise. On a atteint, là, je ne sais pas c'est quoi dans le pic, là, mais à ma connaissance, là, peut-être une centaine de personnes qui sont ramassées hospitalisées là, sur les 1 700 lits disponibles, peut-être 200, je ne sais pas, mais on n'a jamais approché le débordement du réseau. Là. Il y avait beaucoup, beaucoup plus de places disponibles que de gens. Puis il en reste combien au moment où on se parle, soit aux soins intensifs ou hospitalisés dans la région de Québec?
Ben, écoutez, au moment où on se parle, en fait, au moment où on se parle, il n'y a plus personne aux soins intensifs. Il y a deux personnes hospitalisées dans la région de Québec. Okay. Écoutez, vous avez raison, mais je vous dirais que votre commentaire est tout à fait pertinent pour l'ensemble du Québec. Oui, on a effectivement libéré beaucoup de lits. Écoutez, à l'échelle du Québec, c'était de l'ordre de pas loin de 7 000. Cette question-là, on est en train de la retravailler. C'est sûr qu'on ne fera pas le même type de, je dirais, d'arrangement. On va y aller probablement en fonction de scénarios, si vous voulez. On va voir, on est maintenant relativement bien équipé pour voir les tendances. Je vous dirais que dès qu'il va y avoir une certaine augmentation, que ce soit dans une région ou dans une autre ou dans plusieurs régions, on va probablement avec le ministère ajuster le tir au niveau justement des lits disponibles qu'on devra avoir effectivement prêt pour accueillir justement des complications si nécessaire. Mais effectivement, quand on a commencé cette opération-là en mars, vous comprendrez qu'on ne savait vraiment pas qu'est-ce qu'on avait en face de nous. Là. Okay, le virus, là, on ne savait vraiment pas comment il allait se comporter avec notre population. Donc, évidemment, on a probablement été, relativement prudent en disant on va libérer le maximum de lits. Mais actuellement, avec la reprise des activités, les derniers chiffres avec nos collègues du CHU de Québec et de l'ICPQ notamment, où là, la plupart des hospitalisations sont concentrées là, dans notre région, écoutez, ils ont repris leurs activités, ils sont à entre 70 et 80 %. Donc, on est revenu peut-être pas à la normale avant la COVID, mais on a quand même rapidement repris le rebond, si vous voulez.
Docteur Girard, je veux finir l'entrevue avec la question du masque, parce que ça a été ce qui a retenu l'attention depuis quelques jours, alors qu'il a été rendu obligatoire dans les transports en commun. Les gens à Québec se disent beaucoup, écoutez, là, venez nous le dire, il n'y a personne aux soins intensifs, il y a deux personnes hospitalisées. On a vu des journées même parfaites, sans aucune transmission en 24 heures à Québec. Ces mesures-là, on aurait dû les faire, il me semble, quand on était au pic puis que la transmission se passait dans la communauté. Alors que là, le virus s'en va, c'est là où on arrive avec les mesures les plus drastiques. Il n'y a pas une contradiction, puis c'est pour ça que peut-être que la population a de la difficulté à vous suivre puis à obéir présentement.
Oui, bien, effectivement, il faut vous dire une chose, c'est que on n'a pas les mêmes traditions qu'en Asie, par exemple. En Asie, je vous assure que je pense que dans les jours qui ont suivi, effectivement, la présomption qu'il pouvait y avoir quelque chose de sérieux qui s'installait, rapidement, les Asiatiques qui avaient l'habitude, qui ont pris cette habitude-là depuis les dernières années à porter le masque quand il y avait différentes infections, ils avaient ce réflexe-là. Nous, on ne l'a jamais eu, ce réflexe-là. Jamais, jamais on faisait ça. Alors, évidemment, c'était quelque chose qui était nouveau pour nous. En plus, on n'avait pas vraiment si vous voulez, toutes les connaissances scientifiques pour nous dire qu'il fallait faire ça. On savait qu'avec le N95, le fameux masque qu'on, on utilise là dans des conditions, je dirais, où il y a vraiment un agent infectieux très pernicieux qui s'installe, ou encore même sur dans les milieux de travail avec les poussières, etc., on utilise ces masques-là. À part ces données qu'on avait, on avait le masque de procédure pour les blocs chirurgicaux. Mais là, à partir du moment où on parlait de couvre-visage et tout ça, on regardait ça, on a appris à une vitesse grand V pour se rendre compte, et c'est ça le délai finalement, se rendre compte qu'en fait, il valait mieux avoir une barrière que ne pas en avoir du tout. Et on s'était rendu compte qu'en fait, quand les gens portaient le masque et le couvre-visage, en fait, ils transmettaient moins. Ça ne peut pas dire qu'ils ne transmettent pas, mais ils transmettent moins.
C'est ça.
Beaucoup moins. Et puis ça, ces études-là ont sorti, écoutez, dans, je vous dirais, là, on est au fin juin, début juillet. Tous ces travaux-là ont commencé à nous arriver, là, je vous dirais, à fin mai. Là,
comme vous avez... Attendez une minute, M. Girard, vous avez quand même dit, puis c'est vrai, en Asie, là, ça fait des décennies qu'ils portent tout ça, eux autres, ils portaient... Puis c'est pas la première fois qu'on a des virus, puis en Asie, c'était pas contre le coronavirus là, qu'ils portaient historiquement, là, c'était contre d'autres types de virus. Fait qu'on avait déjà des études, on savait que les virus pouvaient être freinés par le port d'un masque. Là. C'est pas vrai qu'on a appris ça la semaine passée. Là, je veux dire, ça fait longtemps que la science s'est penchée sur cette question.
Mais je vous dirais, vous seriez surpris de savoir qu'il n'y avait pas tant de travaux là-dessus. Hein. C'était les Asiatiques, en fait, je ne sais pas, c'est un peu peut-être une... Il faudrait étudier ça sur le plan presque, je dirais, des sciences sociales, là, parce que eux, ça ne date pas d'hier là, que le port du masque fait partie de leur environnement immédiat. Mais je vous dirais que là, pourquoi c'est important de porter le masque, je vous dirais une chose... Ça va devenir d'autant plus important s'il y a une resurgence des cas. Puis l'idée, c'est de voir, est-ce qu'on pourrait pas s'habituer par rapport à... Lorsqu'on est à moins de 2 mètres, c'est le transport en commun, on peut pas être à plus que... On peut pas être finalement à 2 mètres, là, on comprend ça. Puis il y a certains autres milieux aussi. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de nous donner la possibilité de nous habituer peut-être au port du masque dans certains... À certains endroits.
Mais docteur Girard, vous saviez déjà que le port du masque était important puis était utile parce que le personnel médical, vous leur avez toujours recommandé d'en mettre. Puis il y a beaucoup de gens, puis c'est pour ça. Et on est nombreux, là, puis moi le premier, là, on s'est demandé à un moment donné, est-ce qu'ils nous disent de pas porter le masque parce qu'ils ont peur qu'il y ait une pénurie de masques, puis ils veulent d'abord et avant tout protéger le personnel médical. Il y a beaucoup de gens au Québec qui pensent ça. Là.
Oui. Ben, au départ, M. Duhaime, c'était ça. Hein. On avait effectivement, vous avez suivi les informations encore mieux que moi comme journaliste. Écoutez, on avait effectivement des problèmes d'approvisionnement au départ. Donc oui, ça a joué pendant un certain temps. On voulait réserver les masques de procédure, notamment au personnel de santé. Mais je vous dirais que la situation, c'est quand même... C'est beaucoup amélioré. Maintenant, les masques, on les trouve partout. Il y a une production quand même importante. Donc, oui, ça a été un facteur au départ. Ce n'est plus un enjeu comme c'était au départ.
On n'a plus de pénurie de ça, c'est clair. Docteur Jacques Girard, adjoint médical au directeur de la santé publique au CIUS de la Capitale-Nationale, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions.
Merci, M. Duhaime. Vous posez de très bonnes questions.
Au revoir.
Merci, je vous félicite. Au revoir.